RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Édouard Dupénoit.
Et Bukavu à la une de cette édition africaine, la capitale de la province du Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Deux explosions hier matin. Elles tuent au moins 11 personnes. Et cela juste après un meeting du mouvement AFC M23 soutenu par le Rwanda. 5 ans de prison ferme prononcés en Guinée contre Ibrahima Kassori Fofana, dernier premier ministre d'Alpha Condé. Ses avocats disent vouloir faire appel et dénoncent une justice instrumentalisée. Ousmane Sonko tente de regagner les bonne grâce des syndicats et des patrons. Le chef du gouvernement sénégalais réunissait hier ses deux branches sociales après une série de grèves et de mouvements de colère. Le roi du Maroc appelle à un sacrifice. Sans sacrifice, il recommande cette année d'épargner le mouton de l'Aïd. La fête est prévue au mois de juin.
Tandis qu'en Côte d'Ivoire, d'autres animaux qui devraient être épargnés ne le sont pas vraiment.
Comment se fait-il que l'on trouve encore sur certains marchés des peaux de lion ou encore de léopard? D'où viennent exactement ces restes de grands fauves? Ce sera le dossier de cette édition dans une dizaine de minutes.
Deux explosions en deuil donc, la capitale provinciale du Sud Kivu.
Elles ont retenti hier en fin de matinée aux abords de la place de l'Indépendance. À Bukavu, 11 morts au moins et plus de 60 personnes blessées. À peine quelques minutes plus tôt, Corneille Nanga tenait un discours à la tribune. Le coordonnateur du mouvement AFC M23, soutenu par le Rwanda, s'exprimait devant plusieurs milliers de personnes. Le groupe armé et Kinshasa se rejettent mutuellement la responsabilité, Paul Lorgerie.
Devant la presse hier soir, le ministre congolais de la Santé est revenu sur l'attentat qui a endeuillé Bukavu sans donner de bilan définitif.
Il y a eu un meeting qui a commencé vers 11h à Bukavu et après le départ des animateurs de ce meeting, 4 minutes après leur départ, il y a eu 2 détonations qui ont entraîné immédiatement plusieurs morts qui ont été amenés dans nos services immédiatement. Il y avait 7 morts et des blessés graves, dont le nombre n'est pas encore complètement déterminé.
Depuis l'attaque, les deux camps se rejettent la faute. Dans un tweet sur la plateforme X, la présidence de la République congolaise a évoqué l'organisation d'un meeting forcé et a condamné, je cite, « fermement cet acte terroriste odieux perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais ». Fin de citation. Déclencher une explosion après le départ des pantins tirés sur la même population, puis chercher le coupable ailleurs, est une autre forme du poison rwandais. A de son côté, surenchéri le ministre de la Communication Patrick Muyaya. Une version que réfutent les responsables de l'AFC M23 qui rejettent la faute sur Kinshasa. Selon un communiqué du mouvement politico-armé, 2 personnes ont été appréhendées et la traque de tout leur réseau se poursuit avec fermeté.
Paul Lorgerie, 5 ans de prison ferme prononcée contre un ancien responsable du régime d'Alpha Condé. L'ancien premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana, condamné hier pour détournement de fonds, enrichissement illicite et corruption. Il écope aussi d'une très lourde amende à hauteur de près de 20 milliards de francs guinéens. La défense de l'ancien chef du gouvernement, incarcéré depuis 3 ans, dénonce un procès politique et annonce son intention d'interjeter appel. Récit d'audience, Mouktarba.
Après en avoir délibéré sur l'action publique, déclare Ibrahima Kassori Fofana coupable des délits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux.
Le tribunal dirigé par Lansana Souma a suivi les réquisitions du parquet. 5 ans de prison ferme et près de 20 milliards de francs guinéens, plus de 2 millions d'euros d'amende. Une décision que le procureur de la CRIEF a appréciée. Ali Touré.
Nous estimons que la poursuite que nous avons engagée est bien fondée. Les éléments constitutifs ont été bien développés et ça a été repris par la Cour. Et ça a été vraiment un motif de satisfaction. Et la satisfaction, c'est aussi un message qu'on envoie aux dirigeants pour ne pas faire des biens publics ce qu'ils veulent. Et là, c'est pour dire que la gestion de la chose publique doit être moralisée.
La défense de l'ancien Premier ministre dénonce un déni de justice et une justice aux ordres. Maître Sidiki Bereté.
Ça, c'est une décision politique. Kassori ne se reproche de rien. Si c'est franchement la transition, c'est regrettable. On va exercer nos recours. On fera appel. Nous, la décision là ne nous fait ni chaud ni froid. Les Guinéens ne méritent pas d'une telle violence de la justice. On se sert de la justice pour humilier les citoyens.
Kassori Fofana est l'un des nombreux anciens dirigeants et responsables politiques et de la société civile incarcérés ou inquiétés pour des malversations économiques ou des délits d'opinion sous le régime militaire. Mokhtarba Konakri, RFI.
Le député sénégalais Farbangom passe sa première nuit en détention. Il a été placé sous mandat de dépôt hier. Après sa deuxième audition devant le juge d'instruction du pôle judiciaire financier, l'élu de l'APR est poursuivi dans le cadre d'une enquête sur des transactions suspectes d'argent public pour un montant total de 125 milliards de francs CFA. Les avocats du député proche de l'ancien président Macky Sall et dont l'immunité parlementaire a été levée dénoncent une procédure irrégulière. Dans la foulée de cette décision, des affrontements ont éclaté près du pôle judiciaire à Dakar, entre les partisans de Farbangom et des forces de l'ordre avec jets de pierre et tirs de grenades lacrymogènes. Le Sénégal, où par ailleurs le Premier ministre cherche à regagner une confiance qui semble érodée chez les partenaires sociaux, en témoignent les grèves qui ont perlé ces derniers mois dans le secteur universitaire ou dans celui de la santé, la menace même d'une grève générale. Ousmane Sonko réunissait hier une sorte de tripartite, gouvernement, syndicat et patronat, pour clarifier ses positions et sa feuille de route, exercice transparence qui semble avoir rassuré les participants, Gwendal Lavina.
Pendant 3 heures, syndicalistes, patrons et ministres se succèdent à la tribune pour établir le diagnostic de la crise que traverse le Sénégal et formuler leurs demandes. Après avoir écouté tout le monde, le Premier ministre Ousmane Sonko prend la parole.
Il faut qu'on s'entende sur un consensus. Parce qu'aucun pays n'a décollé sans consensus fort. Et c'est pourquoi j'avais tenu à ce format. Tout le système social, la protection des travailleurs, le nouveau code du travail, la justice et l'équité dans les systèmes de rémunération. On va y travailler ensemble. Mais c'est un construit, ça ne tombe pas du ciel. Et ça, nous voulons le faire en toute transparence.
À la sortie, la satisfaction d'Eliman Diouf, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes.
C'est quand même plus rassurant que ce qu'on avait entendu dans la déclaration au niveau de l'Assemblée et dans les autres déclarations. Il y a une ouverture, une volonté de faire un discours de vérité. Et nous, centrale syndicale, notre credo, c'est de dialoguer et de trouver des solutions.
Côté patronat, Pierre Goudiabiatepa, président du club des investisseurs sénégalais, apprécie la transparence des autorités.
Ils ont été mis là pour nettoyer les écuries. Ce gouvernement a eu le courage d'expliquer que les choses vont être dures, très dures, mais l'espoir est devant et c'est ça qui est important.
Les discussions vont se poursuivre avec pour objectif de parvenir prochainement à un nouveau pacte de stabilité sociale. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Des dizaines de millions de fidèles musulmans observent ce soir le premier jour du Ramadan.
Mois de jeûne et d'introspection que l'on scrute sur nos antennes ce matin aux Comores ou encore en Guinée pour le dossier Afrique Économie. Au Maroc, le roi s'est projeté un peu plus loin cette semaine en émettant une recommandation pour l'Aïd, la fête du sacrifice qui doit avoir lieu au début du mois de juin. Mohamed VI souhaite justement qu'il n'y ait pas cette année de sacrifice à proprement parler. Deux raisons à cela. D'une part, dit le souverain, épargner le porte-monnaie des Marocains. Et d'autre part, épargner les moutons. En général, le cheptel de petits ruminants ayant fondu de 30% clairfage ces 10 dernières années.
Les ovins et les caprins sont les animaux d'élevage les plus dépendants des pâturages. Or, cette source d'alimentation a été fortement réduite au Maroc ces dernières années, explique Abdelila Araba, professeur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II.
Cette réduction est le résultat déjà de la pluviométrie, mais aussi de l'extension de l'agriculture, l'oléiculture ou autre. Et donc, on a un petit peu grignoter sur les superficies pastorales.
Le nombre de petits ruminants a donc chuté alors que dans le même temps, la consommation de viande augmentait avec la population marocaine et le nombre de touristes. L'annonce du roi vise à épargner le portefeuille des Marocains les plus modestes et à permettre au cheptel de se reconstituer. Des solutions de plus long terme devront aussi être mises en œuvre, estime Abdelila Araba.
Là où il pleut, la partie nord, peut-être qu'on peut encourager les productions fourragères pour alimenter le reste du pays. Là où il y a peu d'eau, en optant pour des fourrages plus résistants qui demandent moins d'eau.
En attendant, le Maroc a signé un protocole d'accord avec l'Australie pour importer 100 000 têtes de moutons vivants avant mai prochain.
Clairfage, dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, il faut sans tarder repenser le rôle et la place des femmes. Voilà en somme ce que dit un panel de chercheurs qui ont présenté les conclusions de leurs travaux à Jacqueville, en Côte d'Ivoire, précisément à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Jusqu'ici, on avait tendance à considérer que les femmes étaient exclusivement les victimes des groupes d'hommes armés en Afrique de l'Ouest. Non pas que ça soit faux, mais qu'il faille plutôt le nuancer. Certaines s'engagent aux côtés de ces groupes, notamment dans les pays côtiers du Golfe de Guinée où ils tentent d'étendre leur influence. Binta Diagne.
Selon plusieurs spécialistes, les femmes qui coopèrent avec les groupes extrémistes violents habitent dans des zones frontalières. Il y a d'abord des femmes contraintes d'adhérer à ces mouvements et d'autres qui sont guidées par l'opportunisme économique, comme l'a constaté le docteur Abdelaziz Mossi, enseignant-chercheur à l'université de Parakou. Ce chercheur a travaillé sur ce phénomène dans le nord du Bénin et du Togo.
Beaucoup de femmes rejoignent ces groupes, non pas parce qu'elles y sont forcées, mais parce qu'elles y trouvent des intérêts pécuniaires, personnels. Ces groupes extrémistes violents constituent donc des occasions pour certaines femmes pour faire beaucoup de business dans les activités commerciales illicites, comme la vente de carburant, comme la fourniture de vivres, comme la fourniture des moyens de déplacement aussi pour ces groupes-là, comme agents de renseignement pour ces groupes.
Aucun chiffre n'est disponible pour mesurer l'ampleur de ce phénomène, mais selon ce spécialiste, les profils sont larges, toutes les tranches d'âge sont concernées, il y a des femmes instruites, mais aussi des femmes analphabètes. Docteur Anna Mensa, maître de conférence à l'Institut Kofi Annan à Accra.
Dans la société, nous devons chercher à pouvoir élever les opportunités que nous donnons aux femmes à partir de l'éducation.
Il y a enfin peu d'études sur le traitement pénal des femmes djihadistes ou encore sur le suivi psychologique de ces femmes après leur édition. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Et puis le dossier de ce journal explore un marché discret, si ce n'est secret, et interdit, qui peut vous valoir jusqu'à 20 ans de réclusion.
Et l'on reste d'ailleurs en Côte d'Ivoire, à la recherche des peaux de lion ou de léopard, ces grands prédateurs dont le commerce est interdit à travers le territoire, mais qui persistent dans l'ombre, malgré tout. L'ONG Pantera, spécialisée dans la protection de la faune, a mené l'enquête. Elle révèle que les connaisseurs peuvent encore trouver ces restes d'animaux sur certains marchés, des peaux, des crocs à qui l'on prête encore de forts pouvoirs mystiques. Benoît Almeras sur leurs traces.
C'est un carré de peau aux poils dorés posé sur un étal discret. Les marchands le cachent sous les crânes de chauve-souris et les cuirs d'antilope.
C'est une peau de lion, hein, n'est-ce pas?
Ouais, c'est le lion qui est là. Ouais, on coupe ça 1000 francs, 2000, 3000.
Le peau de lion, quand on le trouve, on le divise, on le partage. Sinon, le complet ne trouve plus. Tout cela, ça disparaît.
La peau entière du lion se négocie autour d'1 million de francs CFA. Des restes transformés ensuite en gris-gris. Kassoum est chasseur d'ozo. Pour ce guérisseur, les grands prédateurs ont de grands pouvoirs.
Les lions, les panthères, les lionnes, ils ont plus de pouvoir plus que les autres animaux. Les gens ont besoin de leur peau pour que quand ils sortent dans la foule, dont les gens, ils ont peur, ils tremblent même.
Pour être craint.
Voilà.
La ville de Korogo, proche du Mali et du Burkina, serait l'un des carrefours de ce commerce. Maxime Kouadio travaille pour Eagle, une ONG de lutte contre le trafic d'animaux.
À Abidjan, il est difficile d'avoir des peaux. Il n'y a qu'à l'intérieur du pays qu'on constate encore qu'il y a des personnes qui s'adonnent à ce genre de pratique. Mais ils sont beaucoup méfiants. S'ils se cachent actuellement, c'est qu'ils ont peur.
Le commerce des restes de lion ou de léopard est aujourd'hui passible de 10 à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Parmi les mesures efficaces pour lutter contre ces trafics illicites, il y a certes la dissuasion à travers des peines lourdes. Mais ça ne peut pas suffire, prévient aussi Janvier Aglissi. Il est chercheur pour l'ONG Pantera, spécialiste justement de la protection de la faune sauvage. Il faut aussi comprendre plus largement tout le circuit continental que suivent ces marchandises particulièrement convoitées.
Le contrôle est beaucoup plus strict sur le commerce d'ivoire ou de viande de brousse. Il faut ajouter que la vente de peau de chèvre ou de vache est autorisée et cela permet à certains marchands de dissimuler des peaux de lion ou de léopard, une dissimulation qui peut être facilitée par la corruption de certains agents. Il faut aussi comprendre les réseaux d'approvisionnement. C'est vrai qu'il y a encore quelques léopards en Côte d'Ivoire, notamment dans le parc national de Taï et le parc national de Komoué, mais il est peu probable que les restes de lions proviennent d'Afrique de l'Ouest car les populations y sont trop limitées. Aujourd'hui, nos hypothèses, c'est que ces restes de grands félins soient issus d'autres régions d'Afrique et qu'ils sont importés en même temps que d'autres produits commerciaux et de faune sauvage. Et pour confirmer cela, nous avons collecté des échantillons en vue d'analyses génétiques.
Janvier Aglissi, chercheur pour l'ONG Pantera, et un dossier réalisé par Benoît Almeras.
Merci Edouard Dupénois, à tout à l'heure.